Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché très vaste pour les industriels des pays développés.
Et en ce début de la décennie 70, il a décidé de faire du combat des pays du tiers-monde le sien. Il est devenu en quelques années une des voix qui compte. L'Algérie, dont il est le président, est une destination prisée des nationalistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Wari Boumediene. Abdelaziz Bouteflika, le chef de la diplomatie de Wari Boumediene.
L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde.
Le Maroukid, Mouattamar Adam Hiyaz, fi Al-Jazair Kadalik, Bouithat Ar-Rouh.
Lors de la tenue de la conférence des pays non alignés à Alger, le mouvement prit vie et imposa sa présence. Il parvient surtout à s'imposer comme une troisième force parmi les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi parmi les grandes puissances dominantes.
Fort de son rayonnement sur le plan international, Wari Boumediene accueille en 1975 le premier sommet de l'OPEP, l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole.
Fin du sommet pétrolier d'Alger, les chefs d'État des pays membres de l'OPEP vont se réunir une dernière fois ce soir et vont adopter un plan d'action. Aucune précision pour l'instant sur le contenu de ce plan, c'est un document qui restera secret. Ces premières assises du pétrole ont été marquées par un discours surprenant du président Boumediene. Le chef de l'État algérien n'a pas exclu une éventuelle baisse du prix du pétrole, mais il y met une condition, il demande aux pays occidentaux de vendre de leur côté moins cher leurs machines et leurs biens d'équipement. Le Shah d'Iran est revenu sur soi sur cette condition, il y attache une très grande importance, il l'a confié à notre envoyé spécial Yves-Paul Vincent.
Mais je crois que le président a été très clair en disant une baisse équivalente du prix du pétrole avec les produits dont nous avons besoin et que nous achetons. Je ne sais pas comment cette histoire est sortie. Pourtant, le président a été très clair dans ses déclarations.
Majesté, pour ce qui concerne la conférence mondiale sur l'énergie proposée par la France, certains pays semblent réservés. Est-ce qu'il y a des divergences entre vous au sein de l'OPEP à ce sujet?
Le président Giscard d'Estaing nous a invités à titre de pays souverains et pas comme membre des pays de l'OPEC. Mais appartenant à cette organisation, naturellement, que nous ne pouvons que représenter les intérêts de notre organisation.
Tous les pays de l'OPEC sont donc d'accord pour qu'il y ait une représentation à la conférence?
Je crois que si, je crois que oui.
Cette réunion va permettre, entre autres, de sceller la paix entre l'Iran du Shah et l'Irak de Saddam Hussein.
Marakat le pétrole, en Al-Jazair kanat fal muqaddima.
L'Algérie était à l'origine de la bataille du pétrole. Elle lui a donné une portée sans limite. Lors de ces 10 dernières années, l'Algérie a démontré que le pétrole ne pouvait être un État à l'intérieur des États producteurs de pétrole. Notre pays a démontré, en pratique, qu'il était nécessaire de mettre en place une organisation chargée de la gestion de cette matière première. Je parle d'une économie moderne et de l'industrie en particulier. Nous avons opéré une série de nationalisations et permettez-moi d'insister sur la question du pétrole qui est d'une grande importance. Lorsque le prix du pétrole augmente d'un seul dollar, Nous transférons entre 10 et 15 milliards de dollars des pays industrialisés vers les pays producteurs. Cela veut dire que nous avons frappé ces pays là où cela fait mal. Une telle opération n'est ni simple ni facile à réaliser.
Sur le plan continental aussi, Wari Boumdien est de tous les rendez-vous.
Alors, revenons maintenant à Mario Soares, le Portugais, le Premier ministre portugais. Comme il l'a dit, le Portugal fait partie de ces pays qui ont coupé le cordon ombilical qui les reliait à leurs colonies, mais qui veulent maintenant normaliser leurs relations, leur rapport de coopération avec l'Afrique, c'est-à-dire, dans ce cas, surtout avec l'Angola. La France, elle, peut faire état de liens privilégiés et très forts avec certaines de ses anciennes colonies. Elle en tient compte, évidemment, dans sa politique africaine. Et cette politique est l'une des plus en vue dans le monde. Et c'est sans doute pourquoi elle a été parfois très critiquée au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Khartoum. En fait, les grandes puissances ont été mises tour à tour sur la sellette, selon les options des chefs d'État africains. Celui du Mozambique, donc, s'en est pris aux nations impérialistes en désignant la France sans la nommer. Celui de Madagascar a accusé tous les pays d'Europe de politique de domination. D'autres ont fait un procès identique à l'URSS et à Cuba. Le président égyptien Sadat a lancé un avertissement sur les ingérences, sur les interventions étrangères. Et il a aussi dit que les querelles entre des querelles entre Africains. Par exemple, le président du Bénin, capitale Cotonou, a accusé le Gabon d'avoir organisé avec le Maroc le récent coup d'État contre lui. Bref, le ton monte, bouillonne, et c'est un peu la confusion à Khartoum, un sommet dont nous parle maintenant Régis Faucon.
Un absent de marque au soir de cette troisième journée du sommet de l'OUA, Anwar El Sadat, déjà reparti. Les autres chefs d'État se sont retrouvés dans la grande salle du Palais de l'Amitié sur les bords du Nil. Parmi eux, quelques-uns des ténors de la scène africaine. L'Algérien Wari Boumediene, venu plaider le dossier du Sahara occidental, mais faisant preuve jusqu'à maintenant d'une grande discrétion. Le Guinéen Sékou Touré, tout de blanc vêtu, vivement applaudi après une longue absence.
Si Wari Boumediene est particulièrement présent au sein de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ce n'est pas seulement pour la question du Sahara occidental. Mais son soutien ne l'empêche pas d'être très critique vis-à-vis de l'institution qu'il trouve quelquefois inefficace.
Malgré l'existence des problèmes, qui sont nombreux, qui sont variés, et l'Afrique, je crois, elle n'a pas ce seul privilège. Tous les continents ont le problème. Malgré l'existence de ces problèmes, les Africains se sont rencontrés, ont débattu ces problèmes, et c'est une façon de faire avancer les choses.
Après l'anticolonialisme orienté contre la France, vient l'apaisement au début de la décennie 70. Il va se renforcer avec l'arrivée à l'Élysée du président Valéry Giscard d'Estaing.
J'étais le premier président de la République française à aller dans l'Algérie indépendante. Je me suis dit, je vais reprendre le message du général de Gaulle. C'est-à-dire... Nous sommes indépendants, vous êtes indépendants, ce qui s'est passé est derrière nous, oublions-le, et nous sommes deux nations indépendantes, qui défendent leurs intérêts, hein, mais qui peuvent établir des relations normales.
Des relations presque normales, on va dire, puisque le rapprochement entre les deux hommes ne va pas mettre fin à la critique acerbe du président Boumediene, qui continue de dénoncer les choix géostratégiques de Paris.
Nous sommes en Afrique.
La France, qui nous a colonisés durant 132 ans, a exploité la crise que traverse l'Afrique du Nord sur la question du Sahara occidental pour fournir des armes à l'armée marocaine. Je persiste, vous avez tous entendu parler du projet de Marrakech qui avait pour objectif le réarmement de l'armée marocaine. Et ce n'est pas pour la défense des frontières du voisin marocain. Il s'agit plutôt du plan que nous cache la France. En effet, un nombre important d'armes parvient au Maroc. Et le responsable n'est autre que le gouvernement français. La France, qui a massacré 10% de notre population, n'aime pas voir ce peuple la tête haute en pleine reconstruction.
L'autre grand chantier intérieur, cette fois-ci de Wari Boumdiène, est celui de l'agriculture. Alors que les autres parlent de réforme agraire, ils préfèrent le terme « révolution agraire ». La révolution agraire abolit les droits sur la terre des propriétaires qui exploitent des travailleurs à leur profit et confirme les droits des paysans qui cultivent eux-mêmes leurs terres. Le Fonds national de la révolution agraire sera dès lors constitué des terres nationalisées au détriment des propriétaires absentéistes ou à la faveur de la limitation des grosses propriétés. En ce qui concerne les propriétaires absentéistes, la nationalisation portera sur la terre et les autres moyens de production. Elle donne alors lieu dans les deux cas à une indemnisation.
Ce jour-là, le colonel Boumedienne inaugurait le cinquième village socialiste, celui de Oum Tebboul, près de la frontière algéro-tunisienne. 1000 villages comme Oum Tebboul seront construits et cédés gratuitement aux paysans pauvres. Ce sont les attributaires de la révolution agraire. 2 pièces cuisine, salle de bain et 1 titre de propriété, le fella accueilli à l'intérieur d'un village, ici 120 maisons, où il va travailler pour la coopérative. La révolution agraire est ce qui tient le plus à cœur à Wari Boumedienne, qui, à côté d'une industrialisation ambitieuse, veut favoriser les 8 millions d'Algériens qui vivent aujourd'hui à la terre. La révolution agraire a commencé il y a un an. Au lendemain de l'indépendance, les domaines des gros propriétaires européens avaient été transformés en fermes autogérées, sans grand résultat d'ailleurs. Aujourd'hui, à côté de ces fermes autogérées, il y a les terres des grands propriétaires fonciers, bien souvent membres du parti, voire proches du pouvoir, qui disposent de 25% des surfaces cultivables. C'est à cela que Boumedienne s'attaque maintenant pour, selon la formule répétée à longueur de temps à Alger, donner la terre à ceux qui la travaillent, redonner donc la terre aux petits paysans, ceux qui ont le plus souffert il y a 10 ans. On comprend pourquoi la visite du chef de l'État à Oum Tebboul prenait une telle importance. Les plus grands alliés de Boumedienne sont les étudiants. Chaabia, Taoura, Zeraya, Populaire, Révolution Agraire, chantaient ceux de Oum Tebboul. Étudiants volontaires, ils passent leurs vacances au champ dans une grande mobilisation qui a pour but de faire pression sur les gros propriétaires, lesquels se résignent très mal à l'idée de céder la majeure partie de leurs biens, même pour la bonne cause. Ce sont ces étudiants qui expliquent au fella que désormais sera nationalisée, par exemple, toute propriété dont le revenu dépasse le triple du salaire d'un travailleur d'une exploitation autogérée effectuant 250 jours de travail par an. Mais le dialogue étudiant-paysan est le plus souvent pratique que théorique.
Ils ont eu un petit problème là concernant l'attribution d'un tracteur. Il y a eu un petit retard dans l'attribution, mais finalement ils l'ont eu leur tracteur. Alors on est en train de voir comment essayer de satisfaire les demandes en matériel des 8 coopératives en même temps. Parce que vous savez, comme ça démarre, il y a une insuffisance en matériel, enfin quelque peu quoi.
Alors est-ce que en venant d'Alger, vous êtes un peu les censeurs de la révolution agraire ou est-ce que vous en êtes les conseillers à votre avis?
C'est-à-dire tout ce qu'on fait c'est apprendre les différentes lois aux paysans dans la pratique.
Plus de 10 000 étudiants viennent de passer leurs vacances d'hiver, au début du mois, dans les vignes de l'Oranais ou les champs de pommes de terre de la Mitidja, comme ces jeunes étudiants en médecine.
L'obstacle le plus difficile à surmonter, comme on doit bien s'en douter, la révolution agraire s'attaquant quand même à la grosse propriété foncière qui a été un allié quand même du colonialisme français. Actuellement, ces gens-là ne restent pas les bras croisés. Alors, ils ne peuvent pas s'opposer de manière directe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraves administratives et c'est ce qui gêne l'application de la révolution agraire.
Il faudra attendre quelques années pour observer les premiers effets concrets de cette révolution agraire. L'Algérien possède, dit-on, un sentiment individuel de propriété très fort. Les gros propriétaires devront pourtant se résoudre à céder presque toutes leurs terres pour permettre aux fellahs de découvrir à leur tour la propriété et l'intéressement au bénéfice de la coopérative. C'est pourquoi l'expérience algérienne pourrait d'abord s'appeler la redistribution agraire.
Cette révolution agraire ambitieuse ne connaît pas forcément le succès attendu. mais va réparer en partie les injustices nées de la colonisation. Elle redonne la terre aux Algériens. Les possibilités agricoles étant significativement limitées par le désert, Wari Boumdiène se tourne vers le développement industriel. Un plan triennal est imaginé pour la période de 1967 à 69, auquel succèdent deux plans quadriennaux, 70-73 et 74-77. Ils s'accompagnent de grands travaux, comme la transsaharienne, ou route de l'unité, comme on va l'appeler, qui relie la Méditerranée à l'Afrique noire, ou le barrage vert, forêt à planter en 20 ans pour empêcher l'avancée du désert. Le réseau routier est sensiblement étendu à l'intérieur du territoire algérien. Le réseau développé sous la colonisation restait circonscrit aux villes portuaires, il faut préciser. Alors un effort majeur est porté à la scolarisation des enfants et à la formation professionnelle. L'une des batailles de Wari Boumdiène à son accession au pouvoir est l'arabisation de l'école. Dès juillet 1965, il choisit Ahmed Taleb Ibrahimi comme ministre de l'Éducation, un fervent partisan de l'arabo-islamisme. Il faut dire que Wari Boumdiène a reçu son instruction presque exclusivement en arabe classique dans les écoles coraniques de la région de Guelma, la Médersa El-Khetani dans le Constantinois et dans les universités théologiques de la Zitouna en Tunisie et d'Al-Azhar en Égypte, au lieu du fondamentalisme musulman. De ce fait, il n'a jamais pu se libérer de l'emprise de la religion et de l'arabe coranique. L'arabisation devient l'option fondamentale de l'éducation nationale. Celle-ci est tellement importante pour lui qu'il dira que l'enseignement, même s'il est d'un haut niveau, ne peut être réel que lorsqu'il est national. La formation, fût-elle supérieure, demeure incomplète si elle n'est pas acquise dans la langue du pays. Il peut même constituer un danger pour l'équilibre de la nation et l'épanouissement de sa personnalité. Il peut également engendrer des déviations qui risquent d'entraver une saine et valable orientation. Fin de citation. Mais il faut préciser que la langue du pays dont parlait Boumdiène n'était pas l'amazigh, mais l'arabe de la tribu de Qurayshit d'Arabie Saoudite à l'époque du prophète que personne ne parlait en Algérie.
La colonisation n'a permis le développement de la langue arabe qu'après la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais au lycée, la langue arabe, c'était véritablement le comptait peanuts. Hein. Je me souviens, c'était des cours de cuisine. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me le dire? L'arabe dialectal, ce qu'on appelait l'arabe algérien, etc. C'était véritablement une matière délaissée.
Cette politique d'arabisation va susciter de profondes tensions dans la population. Celles-ci vont aboutir à des heurts parfois violents entre les étudiants, comme en mai 1975 à Alger et à Constantine. En 1976, c'est l'arabisation de l'affichage avec des noms de rue et des plaques d'immatriculation. Le vendredi est déclaré jour du repos hebdomadaire à la place du dimanche. Des décisions fortement combattues par les Amazigh. Wari Boumdiène est particulièrement actif et proche des populations. Il les écoute, se prête volontiers au jeu des questions-réponses avec le public. Il est particulièrement dur et sans concession vis-à-vis des corrompus.
Il faut que les dirigeants soient irréprochables à tous les niveaux. Une révolution teintée de corruption, sans intégrité, n'est guère une révolution. Si nous ouvrons les portes de la corruption, nous pouvons dire adieu à la révolution.
En Algérie, en ce milieu de la décennie 70, Wari Boumdiène jouit d'une certaine popularité qui le conforte dans l'idée qu'il peut, à présent, légitimer son pouvoir auprès de ses compatriotes. Mais va-t-il parvenir à se faire élire par ce peuple? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Wari Boumdiène, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Aujourd'hui, nous sommes pour une politique de dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Aujourd'hui, je crois qu'on commence à nous écouter. On commence à nous écouter et grâce un petit peu au pétrole.
Au pétrole qu'il a su utiliser comme arme politique et économique. En nationalisant les hydrocarbures de l'Algérie détenus jusque-là par les firmes pétrolières françaises, il a complété l'indépendance économique de son pays. Mais il a également séduit l'ensemble des pays producteurs. Il a aussi utilisé cette manne pour réaliser son objectif, faire de son pays l'un des leaders des nations du tiers-monde. Wari Boumdiene a su faire respecter son pays sur le plan international et faire oublier au plus grand nombre qu'il est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch militaire. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Wari Boumdiene.
En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps.
Depuis une dizaine d'années, à la tête de l'Algérie, sa révolution a fait de l'homme discret qu'il était un leader respecté. Il a su imposer à l'intérieur du pays comme à l'extérieur sa vision d'un monde plus juste, où les pauvres doivent avoir droit au chapitre. Et en quelques années, il est devenu l'un des principaux leaders du tiers-monde. L'Algérie va même accueillir le premier sommet de l'OPEP, l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole. Il est parvenu à sceller, dans le sillage de cette réunion, la paix entre le Shah d'Iran et Saddam Hussein d'Irak. Mais avec le Maroc, ce n'est pas vraiment l'entente puisqu'il a choisi de soutenir les Sahraouis dans leur guerre contre le Maroc et la Mauritanie.
Cet homme possède la clé de la prison sans barreaux où sont enfermés les otages du Sahara. L'énigmatique colonel Boumedienne, depuis 12 ans président du Conseil de la Révolution algérienne. Il peut, s'il le veut, faire pression sur le Front Polisario pour faire libérer les Français de Zouerat. Car sans Boumedienne, sans les bases et les camps que l'Algérie met à la disposition des Sahraouis, sans les armes qu'elle donne aux Polisario, le mouvement s'effondrerait en quelques semaines. Dans ce désert où les frontières n'existent que sur les cartes tracées à la règle, on ne sait plus où s'arrête l'Algérie et où commence le Sahara. Souvent, on ne distingue pas si les combattants sont des Sahraouis ou des soldats algériens. Une véritable osmose existe entre l'Algérie et l'ancienne colonie espagnole. L'objectif d'Alger est d'abord idéologique. Pour un pays qui accueille plus de 50 mouvements de libération du tiers-monde, il est naturel de soutenir le Polisario. Il est ensuite économique. En plus des mines de fer de Zouerat, en Mauritanie, les mines de phosphate de Boukra, annexées par le Maroc, renferment l'un des plus grands gisements du monde, avec 2 milliards de tonnes de minerais. Un Sahara acquis au régime algérien permettrait aussi à l'Algérie une ouverture vers l'Atlantique et un débouché pour le fer de Tindouf. L'objectif d'Alger est enfin politique, faire échec à un axe Paris-Dakar en soutenant un régime progressiste au Sahara, et briser ce grand Maroc auquel rêve le roi Hassan II en se servant des combattants du Polisario.
Même si ce n'est pas l'entente cordiale avec la France, même si Boumdiene tient à montrer qu'on ne peut lui dicter ses choix de Paris, il entretient des rapports de respect et de courtoisie avec son homologue Valéry Giscard d'Estaing.
Parce qu'il y avait moins de poids du passé, en fait. Voilà. C'était contemporain. Hein. J'ai eu l'impression, c'est que il s'était dit, mais au fond, ça se passe comme ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire des gens qui se respectent, qui savent qu'il y a des souvenirs naturellement difficiles, voire même très douloureux, mais bon, qui se respectent et qui se conduisent en conséquence. Donc, il est parti, on peut pas dire chaleureux, mais très correct. Et au fond, plutôt que l'hypocrisie, d'une façon générale, moi j'aime assez ce qui est correct. C'est-à-dire, on est soi-même.
Sur le plan intérieur, Boumdiene se sent suffisamment populaire et puissant, mais il n'a jamais été élu. Son régime n'a rien de démocratique. Le moment semble propice pour lui, en cette période, de légitimer son pouvoir. Cet été 1976, il fait voter par référendum au forceps une charte nationale. Cette charte réaffirme la langue arabe comme étant non seulement la langue nationale et officielle du pays, mais aussi la langue que la nation s'efforcera de promouvoir dans le territoire. Ceci se passe évidemment dans un contexte où la question de l'identité kabyle est un facteur de tension avec les autorités nationales. La charte établit la création du poste de président de la République soumis au suffrage universel et la constitution d'une assemblée législative.
Wahri Boumediene, le président de l'Algérie, se succédera sans aucun doute à lui-même ce soir avec un pourcentage de voix très élevé, malgré une abstention elle aussi qui semble devoir être très élevée. On parle de 46% d'abstention rien qu'à Alger.
En fait, cette élection présidentielle est une formalité dans la mesure où il n'y a qu'un seul candidat. Cependant, il faut aller plus loin et chercher les raisons qui poussent le président Boumediene à doter l'Algérie d'une vie politique. Pour deux raisons. En premier lieu, sans doute, pour désamorcer une opposition qui se manifeste surtout à l'étranger et qui reprochait justement le manque de légalité constitutionnelle. Deuxièmement, et c'est sans doute là le but profond recherché par le président Boumediene, pour aller plus loin dans ce que l'on appelle ici la révolution socialiste et avoir les mains libres. Car maintenant, le président Boumediene sait d'où vient son opposition intérieure. Elle s'est manifestée dernièrement pour le vote de la charte nationale et également pour le vote de la constitution. Mais à la suite de cette élection, leurs chances sont bien faibles car le pouvoir du président Boumediene n'en sortira que renforcé.
11 ans après son coup d'état, Wahri Boumediene est élu président de la République avec 99% des votes. Il faut préciser qu'il était le seul candidat. Sid Ahmed Ghazali, ancien premier ministre algérien.
Boumediene était respecté par les Algériens parce qu'il ne leur a pas raconté d'histoire. Il ne leur a jamais dit « je vous apporte la démocratie ». Mais en même temps, il s'occupait des problèmes des Algériens. C'est pour ça qu'il a été respecté par tout le monde.
En cette année 1978, l'absence d'apparition publique du président Wahri Boumediene suscite tous les débats. En réalité, le président est malade. Quelques personnes de son entourage parlent d'empoisonnement, puisque les premiers ressentis de la maladie suivent son voyage du 20 septembre 1978 à Damas. Il aurait, selon cette rumeur, été empoisonné au thallium par les services irakiens. Cette rumeur est surtout entretenue par Ahmed Jabori, l'ex-ministre des Affaires étrangères d'Irak. Quoi qu'il en soit, le diagnostic avancé est celui d'hématurie avec tumeur maligne de la vessie. Pour cela, il choisit de se traiter en Union soviétique. Le 12 octobre 1978, lors de la visite de son frère Saïd, venu le voir à Moscou, il n'apprécie pas qu'il ait fait financer le voyage par l'argent public. Il demande aussitôt qu'il soit retenu sur le salaire du président. Et c'est le Conseil de la Révolution qui, à ce moment-là, assure l'intérim.
Le Conseil de la Révolution assure la bonne marche de l'État algérien. On le dit officiellement à Alger après l'aggravation de l'état de santé du président Boumediene qui a dû être hospitalisé. L'agence algérienne de presse appelle même les Algériens à resserrer les rangs. Régis Faucon.
Les autorités algériennes qui s'étaient montrées fort discrètes ces dernières semaines confirment donc la gravité de la maladie du président Boumediene. Le leader algérien n'étant pas pour l'instant en mesure d'exercer pleinement ses fonctions, le Conseil de la Révolution a pris le relais. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un organisme de 8 membres qui assume la bonne marche de l'État. Créé le 19 juin 1965, il comprenait à l'époque 26 membres, mais depuis, certains d'entre eux sont morts, d'autres sont partis en exil ou tombés en disgrâce, d'autres encore se sont lancés dans les affaires. À vrai dire, au terme du processus entamé en 1976 par le président Boumediene pour la mise en place de nouvelles institutions, le Conseil de la Révolution était amené à disparaître l'année prochaine. Une direction politique élue devait le remplacer. En tout cas, le Conseil de la Révolution dirigera le pays tant que l'état de santé du président l'exigera.
Après plusieurs semaines d'hospitalisation à Moscou, Wahri Boumediene est de retour. Il est hospitalisé à l'hôpital Mustapha Bacha à Alger, 27 décembre 1978.
Bonsoir. Le président Boumediene, décédé ce matin, salué de par le monde comme un dirigeant d'une stature exceptionnelle. Le calme règne à Alger, funérailles vendredi prochain, deuil national de 40 jours. La constitution désigne le président par intérim, M. Rabah Bitat, l'actuel président de l'Assemblée nationale populaire.
Depuis quelques heures, la dépouille mortelle du président Wahri Boumediene repose au Palais du Peuple, l'ancien Palais d'été. Des petits groupes silencieux se formaient encore à la tombée de la nuit près de la grande grille du palais qui pourrait, demain après-midi, s'ouvrir à la foule pour un dernier hommage. Tout l'après-midi, dans le centre de la capitale, des milliers de jeunes ont tourné dans les grandes artères, scandant des slogans, tant politiques que religieux. Wari Boumediene, notre président, Wari Boumediene, toujours vivant, Allah Akbar, c'est-à-dire Allah est grand, entendait-on un peu partout. Cette nuit, Alger est calme. Les rues ont retrouvé leur tranquillité. À la télévision nationale, ce soir, on a diffusé un appel lancé par le Conseil de la Révolution au peuple algérien pour qu'il, et je cite, « serre les rangs dans ces heures difficiles que connaît le pays ».
Le président Valéry Giscard d'Estaing.
Il tombe malade et il part se faire soigner à Moscou. Alors, pourquoi, je n'en sais rien, je ne sais pas quelle était sa maladie. Alors, il faisait ses trajets en avion militaire algérien et il revient vers l'Algérie, de Moscou. Je ne sais pas pourquoi, il avait inventé un trajet qui les faisait passer au-dessus de la Corse.
Territoire français.
Territoire français.
Dans un avion militaire.
Militaire, oui. Il ramène le président Boumediene, qui est malade et qui rentre chez lui, il n'occupe pas la route la meilleure. Donc, si c'est passe au-dessus de territoire français, il passe au-dessus de territoire français. Donc, on envoie des messages aériens.
Donc, vous prenez la décision devant des gens un peu rechignés, quand même, parce que vous leur dites.
Oui, absolument. Oui. Oui. Et alors, à ce moment-là, Boumediene m'envoie un message qui doit être dans les archives quelque part. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Remarquable.
Parce qu'en général, quand ces choses-là arrivent, on envoie un message banal où on salue le chef d'État et c'est tout.
Oui, moi, il m'est arrivé même d'envoyer un message banal dans lequel je me saluais en me trompant de chef d'État. Je survolais un jour la Suisse, j'ai rendu hommage au président de la Confédération et c'est plus le même.
Oui, mais il change tous les ans.
Voilà. Non. Mais là, c'est une lettre qui existe, qui est un message de Boumediene extraordinairement chaleureux. Et disant, je suis très touché par votre geste, ça ne me surprend pas, etc. Et d'ailleurs, ceci veut dire que nous allons pouvoir ouvrir un nouveau chapitre beaucoup plus positif dans les relations franco-algériennes. Et dès mon arrivée à Alger, je m'y consacrerai. Mais très émouvante et forte. Et il meurt.
Et il meurt.
Oui. Anissa Boumediene. Sa veuve.
La maladie du président Boumediene est similaire à celle du président Pompidou, une maladie du système immunitaire des immuns complexes ou encore maladie de Waldenström. Ça a été les appellations qu'ont donné les différents médecins aussi bien à Moscou qu'à Alger. Elle a été brutale, soudaine. Bon, je me fie à ce diagnostic. Maintenant, s'il y a eu autre chose, il n'y a que le bon Dieu qui peut le savoir.
Les obsèques du président Boumediene vont montrer à quel point les Algériens s'étaient attachés à lui. Il était aimé par son peuple. À son enterrement deux jours plus tard au cimetière d'El Alia à Alger, Abdelaziz Bouteflika, son fidèle, est chargé de l'oraison.
Comment trouver les mots, Boumediene? Comment trouver les mots? Malgré tout, je les vois à travers l'union de notre peuple. Je les lis dans les yeux des travailleurs que tu as transformés en travailleurs productifs et responsables. Je les lis dans les yeux des agriculteurs que tu as sortis des taudis pour les loger dignement.
Cite Ahmed Ghazali, ancien Premier ministre de l'Algérie.
Le changement intervenu après la mort de Boumediene a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie.
Anissa Boumediene, la veuve du président.
Boumediene n'avait désigné absolument personne pour lui succéder. Il n'a laissé aucun document qui désignait qui que ce soit.
Lakhdar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères algérien.
Le problème à la mort du président Boumediene, il n'y avait pas de système.
Abdelaziz Bouteflika apparaissait comme le favori pour lui succéder. Après de nombreuses réunions du bureau du FLN en secret, c'est finalement, à la grande surprise des Algériens, un inconnu du grand public, un outsider qui est désigné par le parti pour remplacer Wari Boumediene. Il s'appelle Chadli Ben Jadid. Avec Chadli, les militaires ont préféré un des leurs, Abdelaziz Bouteflika, qui prendra sa revanche beaucoup plus tard. Mais ceci est une autre histoire. Anissa Boumediene, la veuve du président.
S'ils l'ont fait, et je n'entrerai pas dans certains détails que je connais, mais que je préfère taire, ils l'ont fait avec la perspective qu'au bout de 6 mois, ils perpétraient un coup d'État contre leur candidat.
Cite Ahmed Ghazali, ancien premier ministre algérien.
L'établissement à l'époque, c'était les services de sécurité. C'est les services de sécurité qui ont fait le choix. Officiellement, c'est le Conseil national de la Révolution, mais ce n'est pas le Conseil national de la Révolution.
C'était beaucoup plus M. Qazdi Berbah, qui était ministre et chef du gouvernement. C'est lui qui a joué son rôle.
Khaled Nezar, ancien ministre de la Défense.
Et je me souviens de cette image au congrès du FLN, où un homme de ses services, je l'avais appelé le chef d'orchestre, parce que dès que le Chadli rentrait, il faisait lever les gens pour applaudir. Et quand c'était l'autre, il ne se levait pas et les gens n'applaudissaient pas. Donc, c'était joué d'avance. Et c'est ainsi que Chadli a été désigné. Et comme c'est un parti unique, on passait automatiquement.
Avec Chadli commence une autre ère pour l'Algérie. Une période où les options idéologiques et stratégiques sont carrément à l'opposé de celles de Wari Boumediene. Kurt Waldheim, ancien secrétaire général des Nations Unies.
Le président Boumediene a toujours appuyé les efforts pour le maintien de la paix et de la coopération internationale. Il a surtout défendu les droits de l'autodétermination pour les peuples en développement. Et il s'est engagé beaucoup dans le domaine des droits de l'homme. À mon avis, il était un grand homme d'État qui a fait beaucoup pour la cause des pays en développement, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres, pour la paix internationale. Et je crois que c'est cela qui était reconnu et beaucoup apprécié par la communauté internationale.
Après une période d'oubli où il a été systématiquement occulté, à la faveur de l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika en 1999 à la tête de l'Algérie, certaines rues et édifices ont été baptisés à son nom, comme l'aéroport Wari Boumediene à Alger. Valéry Giscard d'Estaing.
Il n'a jamais été remplacé par quelqu'un de son envergure.
C'est sur cette réflexion laissée à l'appréciation de tous que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Wari Boumediene. Vous pouvez évidemment la réécouter sur le site du RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur Apple Store. Vous y retrouverez l'ensemble des personnages que nous avons évoqués depuis le début de l'émission. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook comme vous le faites depuis tant d'années. La première sur notre antenne avec ses 590 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Restez à l'écoute de RFI et à très vite.